Sartre, soit des amis qui ont été ensuite, peut-être par un phénomène de téléphone arabe, écourtés lors de la répétition et qui ont donné naissance à une philosophie existentielle qui est en fait une réduction de la pensée botulienne. Puisque quand même, ça va quand même beaucoup plus loin de dire l'existence précède l'essence, mais de peu, que de dire l'existence précède l'essence, qui est une sorte de pensée husserlienne assez floue, quand même, très, très binaire, qui n'est pas du tout dans l'idée, disons, botulienne. Et puis, le deuxième contexte dans lequel pouvait s'exprimer son oralité, c'est dans le débat d'idées véritable, qui lui devait se faire lors des salons, et qui n'était pas simplement une simple promenade de santé. Alors, là-dessus, nous avons des traces, qui sont des traces souvent de seconde main. Des choses qu'on retrouve de ci, de là, dans des conversations, dans des correspondances.
Mais comment on peut cerner sa pensée? Là, on a parlé d'existentialisme, etc. Le botulisme, enfin la pensée de Botule, ça peut se
résumer. C'est un humanisme.
C'est un humanisme. Le botulisme est un humanisme.
Bien sûr.
Oui, mais il y a beaucoup d'humanisme.
Beaucoup, c'est ça qui est formidable. Dans l'humanisme. C'est qu'il y a beaucoup d'humanisme. Voilà.
Oui, je suis d'accord avec Hervé Letellier, quoique bon, il y a des anti-humanistes dans le mouvement botulien, mais on ne va pas rentrer là-dedans. C'est un humanisme parce que Botule est un dispositif, ou dire aujourd'hui un logiciel, qui permet aux gens de se rencontrer, de s'agglutiner et de débattre. C'est le trou noir qui absorbe l'énergie et qui la renvoie. Là, c'est un contre-trou noir astronomique. Botule est quelque chose qui fait avancer et qui fait mettre les gens en mouvement par sa disparition même. Car il crée une sorte de stimulation intellectuelle assez impressionnante qui fait qu'au lieu que quelqu'un vienne vous dire « Botule a pensé cela, c'est comme ça qu'il faut comprendre Botule hein, », on vient vous dire mais Botule, c'est quoi ?» C'est comme vous venez de le dire encore à l'instant, quel est le botulisme, etc. Et les gens qui ne sont pas justement de la philosophie scolaire, académique et professionnelle sont donc projetés dans une sorte de tourbillon intellectuel tout à fait propre, qui est la méthode botulienne, comme il y avait la méthode socratique, finalement.
Voilà. Et si philosopher, c'est douter de la philosophie, botuliser, c'est douter de Botule.
Voilà. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose à la magnifique démonstration d'Hervé. C'est effectivement, il y a eu aussi quelques conférences, on les oublie un petit peu, mais pourtant, on est là pour en parler. Il a eu des discours académiques qu'on a retrouvés. Hein. Ce sont des traductions, alors c'est pour ça qu'effectivement, on peut en discuter. La vie sexuelle d'Emmanuel Kant, une traduction d'un texte qui a été écrit par un témoin d'une des conférences. Donc effectivement, ça aussi, c'est des traces qui nous reviennent.
Il faut savoir qu'il y a une autre source qui n'a pas encore été du tout exploitée, et je vais vous en donner un petit peu la primeur. Je suis avocat, comme vous le savez, et j'ai été saisi des intérêts de la mémoire de Jean-Baptiste Botule par le fils de Jean-Baptiste Botule, qui s'appelle Bernard Botule. Un monsieur charmant, un peu plus de 80 ans, qui est venu me voir et qui, évidemment, rit beaucoup de tout cet questionnement sur l'existence de son père. Et lui, évidemment, a énormément de choses à raconter.
Alors attendez, s'il a eu un fils, c'est qu'il a existé.
Alors écoutez.
Ça, c'est la preuve.
Alors ça.
Ça, regardez.
Excusez-moi, mais il y a au moins un exemple dans l'histoire qui prouve bien que ce n'est pas une évidence.
Voilà. C'est une.
Il y a un précédent.
Il y a un précédent. Mais oui, mais pour ce qui est de la vérité et du raisonnement logique, vous savez, le précédent qui peut infirmer la règle est quelque chose.
Précède, mais de peu.
Oui, voilà. Voilà. Alors, Bernard Botule, je crois, a beaucoup de choses à nous raconter. Il a commencé à me parler un petit peu de son père. Il faut en profiter, car il est un monsieur assez âgé. Jean-Baptiste Botule a eu une non-œuvre importante, et son fils Bernard Botule...
Une non-œuvre
de son visage. Son expression n'apparaissait pas. Et puis, plus tard, cette forme, ce personnage apparaît. Mais de son vivant, c'était une non-œuvre. Et son fils, Bernard Botule, lui, est également dans une non-œuvre encore plus importante, parce que personne n'en avait encore entendu parler jusqu'à présent. Et ce qu'on espère, c'est que son fils, en fait, donne lieu à une explosion. Mais alors, on ne sera plus vivant. Mais peut-être dans 100 ans, dans 200 ans, son fils donnera quelque chose d'encore plus extraordinaire, car il a été instruit de la façon de procéder de son père. Alors, je crois qu'il y a quelque chose d'important.
Hervé Letellier.
Est-ce qu'on peut revenir peut-être quelques instants sur l'idée forte dont parle notre camarade Frédéric Pagès, ses présidents? Il parle d'un lien qui finalement nous unit, d'une sorte de trou noir que serait Botule, autour duquel, par un phénomène inversé, une sorte de fontaine blanche par laquelle jaillirait des idées.
Le trou noir et la fontaine blanche.
C'est l'inverse. L'inverse du trou noir, c'est la fontaine blanche. Donc on aurait un phénomène quand même d'inversion dans lequel il y aurait gravitation, phénomène de naissance d'idées de manière inversée. Il n'y a pas de témoin de Botule, si vous voulez, comme il existe des témoins de Jéhovah. Bien qu'il y ait un lien entre nous, on n'a jamais trouvé autour du mouvement Botule de témoin de Botule. Et ceci est intéressant, nous sommes les amis de Jean-Baptiste Botule, mais pas ses témoins. Je crois que cette notion est importante. C'est important qu'il n'y ait pas eu de témoins, et finalement ça tombe assez bien que le mouvement soit né 50 ans après sa mort, à un moment où le fait de trouver des